Toutes et à tous. Bien, je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi dans l'Évangile de Luc, chapitre 17. Évangile de Luc, chapitre 17. Nous considérerons ce matin les versets 7 à 10. Évangile de Luc, chapitre 17, versets 7 à 10. Commence la lecture. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et serre-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devrions faire. Amen. Comment lire ce passage de l'Évangile de Luc? Si nous en faisons une lecture purement humaine et de plus contemporaine, il peut nous apparaître dans ce passage comme une sorte d'injustice sociale. D'un côté, un maître à qui tout semble dû et qui exploite son serviteur de la façon la plus égoïste qui soit. Alors que le serviteur a passé toute sa journée dans les champs à travailler, sans doute durement, c'est encore lui qui, en rentrant, doit préparer le repas de son maître et lui servir. Et c'est seulement après cela qu'il pourra à son tour manger et se reposer. Encore, le texte ne nous le dit pas ce matin, mais il a probablement dû tout nettoyer avant de se reposer. Une telle attitude, aujourd'hui, dans n'importe quelle entreprise, mettrait les ouvriers en grève et en rébellion contre un patron qui aurait de telles exigences. Il faut donc pour nous ce matin prendre une autre grille de lecture pour saisir la pensée de Jésus. Dans un premier temps, replaçons les paroles de Jésus dans leur contexte historique et géographique. Alors pour cela, je vous invite à prendre avec moi votre Bible et en Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20, et nous considérons les versets 7, 1 à 7. Matthieu chapitre 20, versets 1 à 7. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des serviteurs pour sa vigne. Il convient avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième heure et il fit de même. Étant sorti vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Alors, allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Amen. Quel genre de serviteurs sommes-nous? Quel genre de serviteurs sommes-nous? Ici, dans ce texte de Matthieu, nous voyons des personnes qui attendent sur place, sous la place publique, que quelqu'un veuille bien leur proposer un travail. Pour certaines d'entre elles, elles vont devoir attendre toute la journée avant d'avoir une seule proposition. Et ceci, souvent pour un salaire dérisoire. Pourtant, même celles qui n'auront que quelques heures de travail s'estiment satisfaites. C'est toujours mieux que de ne pas avoir de travail du tout. De nos jours, le chômage, vous le savez, est une plaie qui gangrène notre société. Mais à l'époque de Jésus, en Israël, la situation était bien pire. La vie était aléatoire et le jour même, on ne savait pas si on aurait de quoi manger le lendemain. Or, le texte de Luc 17 parle de serviteurs, semble-t-il, embauchés en CDI et vivant à demeure chez son maître. Conditions ô combien plus favorables que celles des ouvriers de Matthieu chapitre 20. Ils bénéficiaient ainsi d'une sécurité d'emploi que beaucoup n'avaient pas à l'époque dans cette civilisation. Ce travail lui assurait de manger et de boire chaque jour à sa faim. Certainement que le serviteur vivant de son contexte devait avoir vis-à-vis de son maître une certaine forme de reconnaissance et de respect. Donc, plutôt que de voir dans cette situation un rapport de dominant à dominé, comme cela nous semble prime abord, il faudrait y voir un rapport de dépendance mutuelle avec des règles bien particulières que chacun, maître et ouvrier, se devait de respecter pour conserver quoi ? La qualité de leur relation. Le maître donne du travail au serviteur, lui offre gîte et nourriture, un salaire, une protection sociale, en contrepartie le serviteur tout entier au service de son maître et lui obéit en toutes choses. Si nous utilisons la grille de lecture de ce texte, nous comprenons mieux l'enseignement de Jésus concernant les rapports maître-serviteur, la nécessité impérieuse du service, les exigences du service, la qualité du service, mais aussi la reconnaissance du service. Tout vient du maître. C'est lui qui assure au serviteur tout ce dont il a besoin pour vivre. En quelque sorte, il est le garant de la vie du serviteur. Et dans le contexte de cette histoire, ce n'est pas au figuré, mais bien réel. Le serviteur est venu vers le maître, les mains vides, et reçoit tout de lui. Cela ne vous fait-il pas penser à notre situation ? Avec quoi sommes-nous venus vers Jésus lorsque nous l'avons rencontré ? Rien si ce n'est notre péché. Et pourtant, Jésus n'est-il pas le garant de notre vie et de notre vie spirituelle ? Romains chapitre 11 nous dit « Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour ?» C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Ce matin, parlant du service, Jésus nous interpelle sur trois choses. La première, en Matthieu chapitre 10, verset 8, « Vous avez reçu gratuitement, alors donnez gratuitement. » Qu'est-ce que nous avons reçu lors de notre nouvelle naissance ? La vie éternelle, le salut, le pardon de nos péchés, la grâce, l'amour de Dieu communiqué par le Fils, l'assistance du Saint-Esprit qui est venu faire sa demeure en nous, et tout cela gratuitement. Plus tard, vient le sentiment d'adoption, la révélation de la famille chrétienne, l'autorité en Christ. Frères et sœurs, nous devons savoir que notre service, quel qu'il soit, a cette finalité-là. Nous servons au sein d'une église afin que celle-ci puisse remplir sa tâche de témoigner, afin que des personnes naissent de nouveau et deviennent des disciples de Christ. Avez-vous jamais pensé que lorsque vous faites le ménage dans l'église, vous œuvrez pour l'avancement du royaume ? Peut-être avez-vous pensé que la prédication fait avancer le royaume ? Que le témoignage fait avancer le royaume ? Qu'être responsable d'un groupe de jeunes fait avancer le royaume ? Mais faire le ménage, ou des travaux, ou la cuisine lors des repas fraternels, est-ce que réellement cela fait avancer le royaume ? Eh bien oui. Laissez-moi vous raconter l'histoire, le témoignage d'Alexandre et de Claire Tommy, de l'église de Valence. Une dame d'une église libre de Valence ne savait que bien faire la cuisine. C'est tout ce qu'elle savait faire. Souvent, elle disait au Seigneur, mais qu'est-ce que je pourrais bien faire pour me rendre utile dans l'église ? Je ne sais faire que la cuisine. À cette époque, Alex et Claire, un couple, avec une bande de jeunes, pour la plupart drogués, alcooliques, travaillaient à la construction de l'oasis. Ceux qui connaissent Valence ou la culture chrétienne savent bien ce que c'est que l'oasis à Valence. Ils vivaient par la foi et n'avaient aucun salaire. Or, un matin, Claire s'aperçoit qu'il ne reste plus aucun aliment dans le frigo, ni dans les placards. Bien embêtée, elle ne dit rien à personne et continue de travailler comme si rien n'était. Mais un jeune, un peu simple, qui avait l'habitude d'aider à la cuisine, se rend compte que Claire n'est pas à ses occupations habituelles. En effet, d'habitude, Claire, vers 10 heures, elle se rendait à la cuisine pour préparer le repas. Et là, elle est encore sur le chantier. Ce jeune l'interpelle. « Hé Claire, tu ne prépares pas à manger aujourd'hui ?» Claire, ne voulant inquiéter personne, lui répondit « Si, si, plus tard. » Quelque temps après, le jeune l'interpelle à nouveau. « Alors Claire, et le repas ?» Quand est-ce qu'on s'y met ? Claire lui répondit, écoute, on va s'y mettre un peu plus tard, mais si tu veux, tu peux mettre la table. Ce que fait le jeune homme. Claire est bien embêtée car elle ne savait vraiment pas quoi faire. Elle a beau chercher dans tous les recoins, il n'y a rien qui puisse servir à la préparation d'un repas. Et intérieurement, depuis un bon moment déjà, elle prie le Seigneur d'accomplir un miracle et d'intervenir. Et voilà ce que sur la route, elle aperçoit une voiture qui semble chercher son chemin. Elle se dirige vers cette voiture, une femme au volant. Claire lui dit, « Vous cherchez quelqu'un, madame ?»« Oui, je cherche l'oasis. »« C'est ici, » dit Claire. Et voilà ce que témoigne cette dame au volant de sa voiture. « J'ai longtemps prié le Seigneur la semaine dernière, car je voulais me rendre utile. Mais je ne sais pas faire grand-chose, si ce n'est que cuisiner. » J'ai reçu cette pensée du Seigneur, prépare de quoi manger pour une dizaine de personnes et pour plusieurs jours. Tu iras porter ce que tu as préparé tel jour à une œuvre qui s'appelle l'Oasis. Alors me voilà. Frères et sœurs, chers amis, imaginez dans quel état pouvait être Claire entendant cette dame et recevant de sa part plusieurs marmites pleines de nourriture excellente. Frères et sœurs, cette dame a œuvré de plusieurs manières. Premièrement, toute l'équipe a été nourrie et a pu continuer à travailler à l'œuvre. Et dans les années qui ont suivi, des centaines et des centaines de personnes ont été au bénéfice de cette œuvre, et jusqu'à aujourd'hui. Alex et Claire ont non seulement été nourris physiquement, mais leur foi a été nourrie également. Et la fidélité de Dieu leur a été manifestée une fois de plus, leur apportant un réel encouragement à poursuivre l'œuvre de Dieu. Troisièmement, les hommes, les gars qui aidaient au travail et qui n'étaient pas tous des bons chrétiens, loin s'en faut, ont été témoins de cela. Quelque chose a été semé dans leur cœur ce jour-là et plus particulièrement pour ce jeune qui aidait Claire à la cuisine, qui s'est converti à Christ. Et quatrièmement, des dizaines et des dizaines de personnes depuis lors ont entendu ce témoignage. Et vous, aujourd'hui, et ont été fortifiés. Votre foi a-t-elle été fortifiée par ce récit ? Parce que moi, quand j'ai lu moi-même cette histoire, ce témoignage, elle fut une source d'encouragement et de reconnaissance et a fortifié ma foi. D'ailleurs, Colossiens, l'apôtre Paul nous dit, tout ce que vous faites, Colossiens 3, 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose ce matin. La plus petite chose que nous faisions, que nous allons faire ou que vous faites, le plus petit service, en apparence du moins, permet que l'œuvre du Seigneur avancera ici à Argenteuil. Imaginez si les gens qui viennent pour la première fois dans notre église reviendraient si celle-ci était sale, triste et peu accueillante. Que penseraient-ils de notre service ? La deuxième chose se trouve en Matthieu chapitre 9, verset 37. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson, c'est le monde, les différentes nations, mais aussi les différentes générations. Quel champ immense, quel travail. Mais pourquoi y a-t-il peu d'ouvriers ? Pourtant, Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il y ait peu d'ouvriers. Car Jésus dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Quand avez-vous prié la dernière fois pour que Dieu puisse envoyer des ouvriers dans sa moisson? Cela veut dire qu'il est nécessaire que des vocations soient suscitées. Cela veut dire qu'il est nécessaire que des hommes et des femmes, des jeunes puissent se lever dans l'Église, puissent se mettre en marche, que des personnes soient formées et qu'elles entrent en service dans le champ de Dieu. Alors, avez-vous jamais pensé à entrer en service dans le champ du Seigneur? Le service, quel qu'il soit, est une excellente école pour œuvrer efficacement pour l'avancement de l'œuvre. Le service apprend et permet de développer l'humilité. Il nous fait découvrir les besoins autour de nous, aussi bien que dans le corps de Christ qu'à l'extérieur du corps de Christ. Le service nous amène à répondre à bien d'autres besoins de nos frères, de nos sœurs, avant de satisfaire les nôtres. Le service nous révèle le cœur de Jésus, serviteur par excellence, et nous invite à marcher sur ses pas, à suivre son exemple. Le service est formateur, le service du Seigneur est utile, le service du Seigneur est efficace. Il peut être également une aide précieuse dans le combat spirituel. Quand on s'engage avec Dieu, Dieu s'engage aussi avec nous. Comprenez-moi bien ce matin. Je ne suis pas en train de dire que les œuvres ont un quelconque pouvoir dans le cadre d'une victoire spirituelle. Ce que je dis ce matin, c'est que Dieu, lorsqu'on travaille pour lui, prend soin de nous et parfois nous donne de sortir vainqueurs de certaines attaques spirituelles. D'ailleurs, vendredi, nous avons vu un chant, le chant 139 à Trois-Lagoires. Mon Dieu est si bon. Santé. Sentez, parce que le psaume 34, vous venez de le lire, verset 9, sentez, voyez comment le Seigneur est bon. L'engagement et la fidélité dans le service permet de remporter des victoires. Le service nous fortifie, nous voyons bien la main de l'Éternel, et si nous restons fidèles dans le service, nous constatons qu'il prend soin de nous dans bien des domaines de nos vies sans que nous ayons même besoin de le lui demander. Et j'arrive au troisième point, Matthieu 25, 14 à 30, parabole, vous connaissez tous, parabole des trois serviteurs, un qui avait reçu 5 talents, l'autre qui avait reçu 2 talents, et le troisième 1 talent. Et il me semble que dans ce texte, c'est peut-être cette parabole qui nous est clairement exprimée, je dirais, d'une manière non équivoque, le besoin impérieux du service. Nous avons tous reçu 5, 2 ou 1 talent de la part du Seigneur. Dieu œuvre sur la terre à travers les individus que nous sommes. Lui, le Tout-Puissant, il aurait très bien pu choisir d'agir sans se préoccuper de nous pour changer le monde. Mais ce n'est pas le cas. Il se sert de nous et il œuvre en utilisant nos compétences, en utilisant nos qualités, notre disponibilité, et ceci malgré nos défauts, malgré nos faiblesses, inconstances. Toutefois, cette parabole montre clairement que le talent qui nous est donné d'en haut doit fructifier. Certes, selon la parabole de Luc chapitre 10, 17 que nous avons lu en entrée, nous sommes des serviteurs inutiles. Inutiles car Dieu n'a pas de manière absolue besoin de nous pour que ses plans se réalisent. Cependant, ce sont les serviteurs qui ont fait fructifier leurs talents et sont félicités dans la parabole de Matthieu 25. Oui, il leur a dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Le Seigneur pourra-t-il dire cela de nous? De plus, à travers le service, la confiance du maître envers le serviteur ayant été approuvée, éprouvée même. Et en ce qui concerne les 2 premiers serviteurs, il s'avère que cette confiance n'était pas mal placée. Ils ont été reconnus dignes de confiance Et du coup, le maître affirme qu'il leur confiera des tâches bien plus grandes parce qu'ils ont été fidèles dans les petites. À l'inverse, celui qui n'a pas reconnu, qui n'est pas reconnu digne de confiance, celui-là est sévèrement condamné et on lui enlève même le si peu qu'il avait. Et si vous relisez le texte, vous verrez que c'était une chose plus petite que celle des deux premiers. Autrement dit, puisque nous avons tous reçu un ou plusieurs talents de la part du Seigneur, il est impératif que nous le fassions fructifier et que nous le mettions au service de la communauté, de nos frères et sœurs et de notre prochain. Nous ne pouvons plus, frères et sœurs, nous cacher derrière le fait que nous nous sentions inférieurs. Nous ne pouvons plus nous cacher derrière nos incapacités. Je suis trop jeune, je suis trop vieux. Nous ne pouvons plus dire que nous n'avons pas suffisamment de moyens et que nous manquions de compétences, de savoir-faire et de formation. Frères et sœurs, quand Dieu nous appelle, il nous équipe. Quand Dieu nous appelle, il nous équipe. Il nous appartient alors de nous lever et d'obéir parce qu'il pourvoira. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Ce n'est pas une option facultative. Si Dieu te confie un talent, il n'attend pas de toi que tu produises comme celui qui a reçu 5 talents. Il attend qu'avec ce petit peu que tu as reçu, que tu produises du fruit, du bon fruit. Et dans la parabole de Matthieu 25, verset 26, le maître dit au serviteur, « Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé. » Frères et sœurs, le Seigneur va moissonner là où vous allez semer. Dieu te donne un grain, une petite poignée de grain, et c'est à toi de les semer pour qu'ils portent du fruit. Le Seigneur viendra moissonner ta moisson. Si un épi produit un grain, il le moissonnera. Si un épi produit 10, 30 grains, il le moissonnera aussi. Le nombre importe peu. Ce qui importe, c'est qu'il y ait de la moisson pour que le Seigneur puisse travailler. Laisse-moi te dire que tu seras trouvé fidèle et digne de confiance si Dieu peut moissonner ton service. Peut-être verras-tu cette moisson, peut-être pas. Cela n'est pas le plus important, car nous œuvrons pour quoi ? Nous œuvrons pour l'éternité. Oui, mais vous me direz-vous, le service aussi a ses exigences. Eh oui. Le Seigneur est exigeant, son service aussi. Colossiens 4, 17 nous dit, « Et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien le remplir. » Et Paul, que dira-t-on de Paul quand il dit en Actes chapitre 20, verset 4, « Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Bien remplir le ministère sans faire aucun cas de sa vie. Quelle exigence! Dieu est-il exigeant? Oui, mais il est également patient face à nos échecs. Parfois à nos échecs répétés, il est miséricordieux lorsque nous dévions dans la direction à suivre, fidèle dans le soutien, mais exigeant. Les actes des apôtres qui relatent la vie des tout premiers chrétiens nous montrent comment ceux-ci étaient entièrement dévoués à la mission qui leur avait été confiée. Quelques-uns, d'ailleurs, en perdront la vie. Le salut est gratuit, je ne cesse de le répéter cela. Le salut est gratuit, c'est une vérité, mais la vie chrétienne ne l'est pas. Elle coûte, elle demande de se sacrifier. Et Paul nous le dit en Romains 12, « Offrez vos corps en sacrifice, car nous bénéficions de l'assistance du Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit, c'est Christ en nous, il a fait sa demeure en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, je ne reviendrai pas sur la prédication du frère. Mais nous avons eu une démonstration magistrale la semaine dernière sur l'exemple du Saint-Esprit. Paul affirme cela aussi en Galates. Galates 2:20. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Frères et sœurs, répondre aux exigences de notre Seigneur est possible, mais par la foi en celui qui vit en nous. Quelle est la qualité de notre service? Quelle est la qualité de votre service? Eh bien, quoi que vous fassiez, faites-le avec excellence. Travaillez avec excellence. Donnez la louange, soyez excellent. Dans les travaux, soyez excellent. Toutes choses que l'on fait pour Dieu et pour les autres doivent tendre à l'excellence. Dieu est parfait. Tout ce qu'il fait est parfait. Tout ce qu'il dit est parfait. Tout ce qu'il pense est parfait. Tout ce qu'il projette est parfait. Sommes-nous parfaits? Notre Église est-elle parfaite? Nos louanges sont-elles parfaites? Nos prédications sont-elles parfaites? Nos services sont-ils parfaits? Nos ministères sont-ils parfaits? Nos relations fraternelles sont-elles parfaites? Eh bien, c'est non. Et donc, nous faisons le triste constat que bien que créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous sommes bien imparfaits. Néanmoins, nous devons tendre vers l'excellence parce que la tâche qui nous est confiée ne l'est pas par un homme, mais elle est par Dieu. Et que d'autre part, elle a une implication dans les lieux célestes et dans l'avancement du royaume. Frères et sœurs, nous ne servons pas pour occuper notre temps. Nous ne servons pas pour nous montrer un spectacle. Nous ne servons pas pour donner un sens à nos vies. Nous ne servons pas pour recevoir une quelconque reconnaissance. Mais nous servons Dieu parce que les temps sont courts et que chaque jour, des hommes et des femmes se perdent pour toujours, alors que la volonté de Dieu est que le plus grand nombre ne périsse pas, mais qu'ils soient sauvés et qu'ils parviennent à la vie éternelle. C'est pour cela que, quoi que nous fassions, nous devons le faire comme pour le Seigneur. Avec le plus sérieux possible, avec la plus constance possible, et des compétences et de la fidélité. Êtes-vous fidèle? Et puis enfin, la reconnaissance du service. Oui, la reconnaissance du service. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Le service n'est pas facultatif. C'est un domaine particulièrement important dans la vie du chrétien. Mais c'est avant tout ce que je suis devant Dieu qui a de la valeur et non pas ce que je fais. Jésus ne s'est pas offert un sacrifice pour mes bonnes œuvres, mais pour moi. Si reconnaissance il doit y avoir, elle viendra de Dieu et des frères et sœurs qui sauront reconnaître la qualité, mais aussi la motivation de mes services. Alors, quel maître servons-nous? Quel maître servons-nous? Parce que, laissez-moi vous expliquer une chose, c'est que selon le maître que nous servons, la qualité de notre service sera différente. Notre service doit être le fruit d'une relation d'amour entre le maître, Christ, et le serviteur, nous. C'est un service consenti, offert, et non pas imposé ou obligé. Je vous invite alors ce matin, dans la méditation, à y voir ce maître aimant et bienfaisant et à réfléchir sur les motivations qui nous amènent à le louer et à le servir. Et ce maître, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Alors, que Dieu nous aide à être ses serviteurs inutiles, à qui toutefois il pourra dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur ». Tu as été fidèle dans peu de choses, je vais te confier de grandes choses. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.